Vivre ensemble. Tous les mercredis et dimanches, de 10h à midi.
Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Et oui, nous sommes dans Vivre ensemble, vous nous écoutez sur Radio Pluriel. Et pendant 2 heures aujourd'hui, nous avons le grand plaisir de retrouver nos partenaires de Radio Passage. Radio Passage, je vais donner tout de suite la parole à Cécilia pour nous expliquer.
Radio Passage, c'est une radio nomade et participative qui est née à l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu, mais qui est en train de voler vers de nouveaux horizons et aller à l'extérieur, aller suivre le mouvement en fait, de ce que la psychiatrie est capable d'inventer aujourd'hui et puis aller vers là où vivent les gens, dans la ville.
Radio Passage, avec qui nous faisons des émissions maintenant depuis plusieurs années. Alors, nous sommes très nombreux aujourd'hui dans le studio, dans la salle à côté, en régie, dans la cuisine. En régie, merci à François d'être avec nous aujourd'hui. Et nous avons beaucoup travaillé, vous avez fait des reportages, des interviews, des recherches autour du thème du lien social. Parce que c'est un travail que vous menez régulièrement autour de la production de sons qu'on peut retrouver sur votre site, Radio Passage. Et on va parler aujourd'hui de lien social, se demander ce que c'est, comment on se lie, on se relie, avec qui, pourquoi, comment le lien peut se rompre, se réparer, s'entretenir, pendant ces 2 heures d'émission. Et on va démarrer assez vite, en fait, avec une chanson. Pour une fois, on va démarrer avec une chanson. La mauvaise réputation de Brassens, interprétée par le réunionnais Daniel Warreau, avec les ogres de Barbac. Et ensuite, bien sûr, on se présentera un peu plus. Merci François de nous envoyer la mauvaise réputation.
Au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation. Que je me démène ou que je reste quoi, je passe pour un je ne sais quoi. Je ne fais pourtant de tort à personne, en suivant mon chemin de petit bonhomme. Mais les braves gens n'aiment pas que l'on suive notre route que. Non, les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que.
Dans mon quartier, pas pour faire le fion, on est n'a école si moi en couillon. Mon patater, mon ça va des doigts, ça tu prends moins pour un fatra. Où les chiens, moi, mon mien, va se battre personne. Mi vend mon bazar, c'est sous un cochon. Soma de mon, n'y aime pas pourquoi, oui, rentre pas dans un train au tué. Non, va de mon, n'y aime pas pourquoi, oui, rentre pas dans un train au tué.
Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que.
Tout de mon, n'y bat la langue là. Par contre, parle pas. Mais je t'y gagne pas. Le jour la fête 14 il est mis t'attendre si mon zoyer. Cette musique en larmes et la loi. À moi moi la parle avec ça. Où les chiens moi mon mien va se battre personne. Qu'un mien coûte pas cette clairon quand il sonne. Soma de mon n'y aime pas pourquoi. Oui rentre pas dans un train au tué. Non va de mon n'y aime pas pourquoi. Oui rentre pas dans un train au tué.
Non les braves j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non les braves j'en aime pas que l'on suive une autre route que.
Oui de mon n'y a monte à moins le doigt. Par la mouillon l'in a point le bras. Mi croisin de mi chapeau bleu, pourquoi des yens volés, elle vente les crées. Mi passé un cala, bon Dieu, Seigneur, de mi chapeau bleu, il pète à terre. Où les siens, moi, mon mien, va se battre personne. Qu'aime moi la quitte sapin volé à concombre. Soma de mon, n'y aime pas pourquoi, oui, rentre pas dans un train au tué. Non, va de mon, n'y aime pas pourquoi, oui, rentre pas dans un train au tué.
Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que.
Tout le monde y saute si moins baya. Pas qu'on gonne qui, on s'abat des doigts.
Pas besoin d'être Jérémie pour deviner le sort qui m'est promis. S'ils trouvent une corde à leur goût, ils me la passeront au cou. Je le fais pour tant de personnes, en écoutant pas le clairon qui sonne. Mais les braves, j'en aime pas qu'on l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que.
Pas besoin, moi, les grands soamis, pour as tu veux battre mon mari. Tapez un code, oui, d'autres n'auraient coup pas à moi, mais t'as moins d'un tout. Ou laissez à moi, mon mien, on va pas personne. Mi fim pas à mal, mi bois à non rhum. Soma domouni, aime pas pourquoi, oui, rentre pas dans le train au thé. Non, pas domouni, aime pas pourquoi, oui, rentre pas dans le train au thé. Paye pas à moi, le péwani. Par contre, avec, quand même la vie.
Donc on vient d'entendre La mauvaise réputation de Brassens, une chanson un peu emblématique, un peu voilà qu'on a choisi en groupe pour un petit peu illustrer la difficulté qu'on peut rencontrer quand on est un petit peu hors norme, quand on est un petit peu différent pour s'intégrer dans la société, pour être accepté, pour vivre sa vie au milieu de dans le flux du monde quelquefois un peu normé. Voilà, donc c'était ça qu'on voulait mettre en introduction. Après, c'était aussi vraiment pour effectivement ouvrir la question de que pose la semaine d'information sur la santé mentale. On est en pleine semaine d'information sur la santé mentale en ce moment. Ça vient de commencer, ça dure 15 jours. Et cette semaine, elle propose vraiment de sensibiliser, d'ouvrir, d'informer sur les questions que pose la santé mentale aujourd'hui. Et voilà, on a pris le thème qu'ils ont proposé et qui est une sorte de slogan assez impressionnant en fait, parce qu'il pose plein de questions. Ça propose « Pour notre santé mentale, réparons le lien social ». Et c'est à partir de cette phrase-là que nous avons déplié, développé pendant un mois nos petits neurones collectifs. Et ça fait depuis le 11 septembre qu'on se retrouve, qu'on travaille, qu'on réfléchit autour de ces notions. Et c'est ça qu'on va partager avec vous.
Merci Cécilia. Et donc Cécilia, vous êtes chargée d'action culturelle à l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu. Et autour de la table, alors, pour cette première partie, il y a un certain nombre d'intervenants, mais il y en aura d'autres dans la deuxième, la troisième partie. Pour cette première partie, on est avec Jérôme Corlera. Vous êtes directeur général de la fondation, la RHM. Qu'est-ce que c'est que la RHM ?
Bonjour à tous. La fondation RHM est une fondation qui a été créée en 1950 et dont la mission est vraiment d'accompagner toutes les formes de fragilité. On vient d'évoquer l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu, qui est un des lieux d'accueil de notre fondation. Mais il y en a bien d'autres autour du logement, autour du travail, autour de la prévention, du soin. Donc c'est vraiment offrir un parcours à des personnes qui ont été marquées dans leur vie par cette fragilité que nous cherchons à accompagner du mieux que nous pouvons dans toutes les dimensions possibles.
Merci. Et donc vous avez parlé de logement. Effectivement, il y a la résidence sur ville qui existe depuis quelques années et qui est représentée ici par Julien. Bonjour Julien.
Bonjour.
Et vous êtes résident donc dans cette résidence sur ville.
Oui. En fait, je m'étais déjà présenté il y a 2 ans dans ce cadre-là.
Oui.
J'étais venu et j'avais dit que j'étais simplement habitant de sur ville, ce qui est toujours le cas, et je m'en contente très bien. Simplement, là, je voudrais rajouter quelque chose, c'est que la vie souffle le chaud et le froid. Et quand on a un cerveau comme le mien, on a du mal à concilier les deux et à vivre sereinement. Voilà.
Et c'est pour ça qu'on vous remercie beaucoup d'être là aussi, Julien, et d'être fidèle à cette émission et à cet atelier radiophonique Radio Passage. Et puis, de la résidence sur ville, il y a aussi Guillaume. Vous êtes éducateur spécialisé. Bonjour.
Bonjour.
Vous voulez nous dire un mot ?
Oui, je travaille à l'heure sociale à la résidence accueillie sur ville depuis bientôt 2 ans.
Mm-hmm. Elle a été créée il y a combien d'années ?
Elle a été créée en 2017.
2017. Et puis, on est aussi avec Philippe, qui est aussi éducateur spécialisé. Bonjour Philippe.
Bonjour. Alors moi, je suis effectivement éducateur depuis 4 ans à la résidence accueil de Surville. Et comme Julien, j'avais participé à une émission il y a un an et demi, Donc je suis plutôt content de me retrouver là et de pouvoir échanger autour de cette belle notion du lien.
Voilà. Et donc on a été justement à la résidence Surville il y a quelques semaines et on a commencé à discuter, de savoir qu'est-ce que c'était que le lien social. On a discuté tous ensemble et on vous propose un petit montage de cette discussion autour de qu'est-ce que c'est que le lien social.
Alors, moi, le lien, ce serait quelque chose qu'on accroche, qu'on branche, qu'on... comme une sorte de prise. Voilà.
Moi, j'aurais l'idée de connexion, c'est-à-dire que comment on rentre en connexion, mais avec, alors social, plus avec nos pères, quoi, les proches, les êtres humains, mais on peut aussi rentrer en connexion avec des textes, avec des artistes, avec des chansons, c'est une forme de lien social. Donc c'est hyper large, mais c'est je rentre en connexion avec quelqu'un ou quelque chose qui me fait réagir.
Un lien, c'est ce qui réunit deux éléments entre eux.
Le lien social, une route pour le social, une route.
Chacun sa route, chacun son destin, la chanson de Tonton David.
La question de lien, ça me fait penser au Scooby-Doo, le petit jeu où on, pour les enfants où on mêle des fils ensemble pour faire une sorte de bracelet ou quelque chose comme ça.
Un lien social, c'est comme de la pluie. Quand elle tombe, elle reste quelque part. Indéfiniment.
C'est vrai que la première vision que moi j'avais, c'était alors, peut-être plus qu'un fil, une petite ficelle qui peut se casser comme ça, qui est fragile. Hein, quand on, la laine, par exemple, on tire sur un fil de laine et ça se casse comme ça. Donc il faut y faire attention. Et effectivement, entre deux points, entre deux endroits, entre deux gens, entre deux personnes.
Bah, les liens sociaux, c'est, ça nous relie à une autre personne. C'est des échanges, du partage. Voilà.
Moi, pour moi, le lien social, c'est aussi le rapport à l'autre. Alors, la société, oui aussi, mais moi, je me pose beaucoup de questions sur qu'est-ce qu'on entend par lien social et est-ce que le lien familial, c'est aussi une question de lien social ? Pour moi, oui, potentiellement, parce que le lien social, c'est justement se connecter au social, à l'autre, donc aussi avec sa famille.
Alors, même si Internet n'existait pas, il y avait quand même le téléphone, on envoyait des lettres par la poste et de temps en temps, on allait se voir.
Les réseaux, on se voit avec la caméra, mais quand on va chez quelqu'un, on le voit de... C'est pour moi, ça me parle pas, les réseaux sociaux, j'aime pas. Je préfère les liens directs, en vrai.
Internet, c'est bien, mais je préfère les jeux vidéo, parce que beaucoup de jeux vidéo, maintenant, ont un lien social quand on joue ensemble. On peut jouer à 3, 4, plusieurs joueurs, et ça met un petit lien. Ça peut éventuellement être un sujet de lien social, oui.
Pendant les jeux vidéo, on sait qu'il y a des histoires d'amour qui se créent comme ça, avec Twitch.
Il peut y avoir des histoires d'amour comme des histoires familiales, des histoires amicales. Alors, c'est souvent un peu privé, des fois. C'est souvent des sujets un peu privés quand il y a des histoires un peu privées, intimes. Des fois, il y a ce qu'on appelle des communautés. Et les communautés, elles mettent tout en œuvre pour que justement ça fasse comme une sorte de cérémonie, de communion.
Quand on parle de santé mentale, on a pas aborder la maladie. Ça prend du temps, mais on mûrit avec le temps. C'est pas toujours évident.
Il y a quelque chose d'essentiel, c'est de pas rester avec des a priori sur les autres, surtout pas.
La question de l'acceptation aussi à travers ça. Comment est-ce que avec mon histoire, ce que je suis, on peut m'accepter avec mes différences ou pas d'ailleurs.
Sur la famille, on pourrait voir ça comme un lien social un peu imposé, c'est-à-dire qu'on n'a pas vraiment le choix, on ne choisit pas sa famille, comme on dit. Je trouve que c'est important dans le lien social, c'est la possibilité de pouvoir le choisir, de dire où est-ce qu'on a envie d'aller, qui on a envie de rencontrer. Et cette notion, ça amène à la notion de liberté. C'est-à-dire qu'il peut y avoir un lien social, il ne faut pas que ça devienne comme une obligation, absolument. Il faut absolument faire du lien social, on sait bien. Tout ce que des fois on n'a pas envie, et qu'il y a des gens qui ont peu envie d'avoir des liens sociaux, mais qui en ont juste quand ils le souhaitent. Et c'est ça que je veux mettre en avant, ce côté pour casser un peu l'obligation de choisir à quel moment et quel type de lien on veut aussi. Parce que social-familial imposé peut être lourd et écrasant.
Justement, dans la gestion des liens sociaux, savoir bien gérer ces liens sociaux, il y a aussi le fait de savoir prendre la bonne distance par rapport aux autres. Est-ce que je dois tout le temps appeler mon ami ? Est-ce que du coup, je dois me dire, je vais peut-être le laisser tranquille certaines journées ? Enfin, il y a beaucoup de questions comme ça.
La famille, pour moi, c'est un peu le creuset de départ. Là, on est au départ, on sort du ventre d'une femme et puis on va être dans un cocon ou pas du tout. Au contraire, on va être posé là Et du coup, c'est un peu le creuset de départ. Mais après, oui, c'est la question aussi de l'émancipation. Est-ce que je peux m'émanciper de ce creuset-là? Est-ce que j'ai le droit de sortir et de revenir? Est-ce que j'ai le droit de changer et de revenir? Est-ce que, enfin, il y a toute cette espèce de va-et-vient. Mais c'est la famille qu'on appelle quand il y a un drame, c'est la famille qu'on appelle à l'hôpital, etc.
Ouais, si on est en contradiction totale avec sa famille, avec les valeurs développées, voilà, avec les personnalités, on peut s'autoriser à... On n'est pas lié, pied, main liée à sa famille. On ne lui appartient pas, à sa famille. On est là par hasard.
On n'est pas obligé de garder un lien social, même avec sa famille. C'est, on peut aussi construire des liens sociaux avec des amis et ne plus du tout avoir de lien avec sa famille. Ça dépend effectivement dans quel creuset on est.
L'image de l'élastique, elle est intéressante parce qu'on n'est pas obligé de casser le lien, mais on peut l'amener loin, là, le tirer comme un élastique et puis on le ramène à nous. C'est pas cassé, c'est loin, mais ça reviendra.
On est tous dans une obligation d'être dans un lien social. Je connais personne, moi, qui habite tout seul au milieu de la forêt et qui survit seul, quoi. Tous là, on vit dans des sociétés où on est tous en lien les uns avec les autres, quoi. Alors, il y a des liens qu'on choisit, des liens d'affection, et puis il y a aussi des liens qu'on a par nécessité, quoi.
Vivre ensemble.
Voilà, c'était un échange libre sur la question du lien social. Alors, on se retrouve avec vous dans le studio. Qu'est-ce que vous en pensez? Monsieur Colra, vous avez pris vos fonctions de directeur de la Fondation de la RHM. Qu'est-ce que vous en pensez du lien social?
Je trouve que c'est un thème passionnant. À l'heure où on bénéficie en fait d'énormément de moyens de communication, de réseaux sociaux, on pourrait se dire qu'on a des outils pour se faire plus proche. Et en même temps, qu'est-ce que l'on observe, et singulièrement depuis la crise sanitaire, depuis la crise Covid, qu'a été le révélateur de cet isolement, de cette coupure de liens sociaux, comme on en a besoin. Mais ça ne va pas de soi. Et j'ai bien aimé, on a eu beaucoup de, parmi les participants de l'atelier, des approches parfois complémentaires, parfois antinomiques. Il y en a un qui disait, moi j'aime bien jouer en ligne parce que je suis connecté. Et c'est vrai qu'il ne s'agit pas non plus de dire tous ces outils sont inutiles, ne sont pas intéressants, nous coupent du lien social. Je pense que c'est aussi, à l'heure du numérique, un moyen d'être en contact. Mais je pense que ça ne peut pas suffire. C'est-à-dire que j'entends derrière lien social, qu'est-ce qui me permet d'être proche ou d'être approché, et comment je suis le prochain. Il y a quelque chose autour de cette proximité, de ce croisement d'intime, et l'exercice que nous faisons à l'instant avec la radio, je trouve un bon exercice de lien social. Je ne connaissais pas Julien, et on partage ce moment précieux de radio, à un moment donné, sans se connaître, et ça crée cette complicité. Donc il y a sans doute à inventer ces espaces de proximité, de comment j'ai des moments où je peux être proche de l'autre.
Oui, c'est ça. On a bien entendu dans les différentes réflexions qu'il pouvait y avoir les liens naturels, la famille, et puis les liens qu'on se choisit autour de thèmes ou de passions communes. Oui. Mmh. Comment on peut faire communauté autour de choses en commun. Et donc c'était à la résidence Surville qu'on a fait cet échange. Qu'est-ce qu'on peut dire plus précisément de la résidence Surville? Qui c'est qui veut en parler un peu plus précisément?
Alors la résidence accueil de Surville est effectivement est née en 2017. Elle fait partie du pôle logement qui fait partie de la fondation RHM. Donc le pôle logement, comme son nom l'indique, propose des solutions de logement ou des pistes de logement à des personnes qui ont un parcours en psychiatrie. L'idée de la résidence accueil, qui est la première résidence accueil fondée par le pôle logement, c'était de pouvoir faire sortir des personnes qui avaient un long parcours en psychiatrie et qui se projetaient assez peu, et parce qu'ils se projetaient pas eux-mêmes, et puis par ailleurs il n'y avait pas trop de solutions. Donc cette résidence a été construite en proximité de l'hôpital. Elle n'est pas sur le terrain de l'hôpital, hein, on est vraiment à côté. et permet donc à des personnes qui ont un long parcours comme ça de psychiatrie assez chronicisé de pouvoir habiter dans un appartement. Donc c'est un petit immeuble de 22 appartements, c'est des appartements de 20 mètres carrés ou un petit peu plus, où les personnes sont locataires, elles signent un bail et elles sont chez elles, donc elles habitent. Comme disait Julien tout à l'heure, ce sont des habitants, on dit locataires. On est vraiment avec des habitants, des gens qui habitent chez eux, on ne peut pas rentrer chez eux comme ça. C'est leur logement, donc c'est une très belle opportunité pour elles d'habiter. Donc ça implique pas mal de choses, hein, une certaine forme d'autonomie dans l'entretien du logement, faire les courses. Voilà. Et nous, on est deux travailleurs sociaux en journée, de 9h à 17h, pour mettre en vie la résidence, pour impulser une dynamique et faire en sorte qu'il y ait du lien, qu'il y ait pas mal de liens, dans les grandes lignes.
Merci Philippe. Alors, est-ce que quelqu'un a autre chose à dire sur le lien social ? Oui, Cécilia.
Je voulais réagir à deux choses. D'abord, après ce que dit Philippe, c'était un peu évident d'aller vers la résidence Surville, où habite Julien, où habitent d'autres participants à notre atelier radio depuis longtemps. Et puis parce que c'est un lieu où effectivement on fabrique, on invente au quotidien, constamment, par des petites choses et des grandes choses, du lien, de l'être ensemble, du faire ensemble. Et ce terme de faire ensemble, c'est le sous-titre de notre atelier radio depuis l'année dernière, où on se dit, et là je rebondis aussi sur ce que disait Monsieur Colra, c'est-à-dire on est faire communauté, c'est pas seulement avoir des points communs ou des envies communes ou des désirs communs ou des passions communes, c'est aussi faire ensemble des choses. Et moi j'en suis convaincue, c'est-à-dire que c'est parce qu'on fabrique, parce qu'on est ensemble devant un micro, effectivement, que du coup on se retrouve tous dans nos complémentarités.
Merci, Cécilia. Alors, autour de cette question du lien social, on s'est demandé, évidemment, qu'est-ce que ça voulait dire, qu'est-ce que ça pouvait représenter pour chacun d'entre nous. Et puis, on s'est posé aussi la question de l'étymologie, donc vous avez un peu travaillé là-dessus. Qui c'est qui va nous en parler ? C'est Philippe ?
Allez, je m'y colle. Allez. J'ai fait mes devoirs. Donc, le lien vient du latin ligamen, qui est lui-même un dérivé de ligare, qui signifie « lier », assembler, unir ou joindre. On peut déjà déceler quand même une ambivalence dans le terme, puisque lien, ça veut dire aussi ce qui attache, ce qui maintient. On peut voir ça aussi comme une entrave. Donc là, on voit déjà qu'il y a une ambivalence dans le terme. Nous, on va évidemment s'attacher à l'aspect positif, ce qui nous relie. Nous, ce sur quoi on travaille, c'est un lien dynamique. C'est-à-dire que au quotidien, comme disait Cécilia, on essaye de nouer, de tisser. Il y a plein de termes comme ça qui me parlent beaucoup. J'expliquais aussi un peu dans l'introduction que l'intérêt de ce lien dynamique, c'est qu'on peut à la fois, comme l'élastique, là, il peut se distendre. Il peut se relâcher, il peut même rompre dans les cas vraiment extrêmes. Et à la résidence, ça permet aux personnes, justement, quand elles sont chez elles, d'être un peu éloignées du lien, parce qu'elles l'ont décidé. Et quand elles descendent au rez-de-chaussée, où il y a plus de monde, où il y a de la vie, où on est là, de le renouer. Donc on est dans cette espèce de lien dynamique constant qui laisse la possibilité primordiale aux personnes de choisir, de faire ce choix. Je suis chez moi. Je descends en bas, je retisse le lien, et puis là, c'est un peu trop pour moi, parce que, comme disait Julien, dans ma tête, ça fait beaucoup, je m'en éloigne un peu. Donc voilà, toute cette étymologie nous montre à la fois qu'il y a l'idée d'union, de jonction, mais aussi d'attachement, de maintien et d'entrave.
Merci. Merci. Donc on entend déjà, évidemment, toute la variété des liens, hein, dont vous avez parlé, il y a les liens familiaux, les liens professionnels, évidemment, les liens amicaux. Alors, on va faire une nouvelle pause musicale et ensuite, on va changer un petit peu les participants autour de la table. Et donc, la pause musicale que vous avez choisie, c'est Bob Marley, One Love.
Thank you. hopeless sinners who has hurt all mankind. Just a savior's own belief.
One love.
Is holy, I'm a Gideon.
One love.
So when the man comes, there will be no doom.
One song.
Have pity on those whose chances grow ten. There ain't no hiding place from the Father of creation. Yeah, yeah.
One love.
What about the one?
Vivre ensemble.
C'était Bob Marley, One Love. Réunissons-nous et nous sentirons bien. Voilà, c'est de cela que l'on parle, des liens affectifs, des liens amicaux, des liens familiaux. Alors, l'idée de communauté qu'appelle Bob Marley, évidemment, on s'en souvient, faire partie d'une communauté, faire partie d'un groupe. Social, mais qu'est-ce qui peut fonder une communauté? Qui c'est qui voudrait parler de ça? Philippe voudrait nous parler de ça?
Je reprends la parole. Alors, alors sur la communauté, moi j'avais poursuivi mes petites recherches étymologiques et le terme social, puisqu'on travaille sur le lien social, ça vient de socius qui signifie compagnon et associé. L'idée de communauté. Donc tout ça est relatif à une communauté. Alors il y a l'idée de communauté, de société, de collectivité. Et effectivement, si on parle en tout cas du terrain où moi je suis, on fait communauté. Donc c'est-à-dire qu'on partage un certain nombre d'intérêts, voire de valeurs, en tout cas d'habitudes. Et ce qu'on met en avant, en tout cas au quotidien, et ce qui pas que nous, hein, c'est l'importance des interactions. De toutes les interactions qui mènent la communauté, la société, et de ces interactions, si elles sont menées très régulièrement et si elles permettent d'avoir des liens un peu plus profonds et récurrents, amènent une solidarité. Donc pour moi, faire communauté, faire société, je crois que je préfère le terme faire société qui est plus large et plus ouvert, il y a aussi cette notion là d'ouverture. On fait société à partir du moment où on se sent solidaire les uns avec les autres.
Oui, oui, oui. La solidarité, bien sûr, c'est l'idée qu'on peut compter les uns sur les autres. Donc il peut y avoir aussi un sentiment de confiance, de bienveillance dans ce groupe-là. Hein. Et puis sans doute aussi l'idée de réciprocité, c'est-à-dire que aujourd'hui, tu me parles, demain je te parle, demain je te raconte mes histoires, tu me donnes un coup de main. Et voilà, quelque chose qui circule, qui n'est pas juste dans un sens. Hein, c'est pas une, il n'y en a pas un certain nombre qui sont désignés pour aider les autres. Hein. Il y a quelque chose qui circule.
Mmh. Oui, ça circule en permanence. Alors après, ce que j'expliquais aussi tout à l'heure, c'est qu'on est en droit de se retirer aussi chez soi parce que le lien ne doit pas être une injonction permanente. On peut avoir besoin de lien, envie, et à d'autres moments, non. Mais en fond, en tout cas, quand on a réussi à créer ce climat où il y a une solidarité, effectivement, je vous rejoins largement là-dessus, on sait qu'on peut faire confiance à l'autre qui va être là pour nous. Là, on a gagné quelque chose d'important et là, on fait société pleinement.
Oui, c'est ça. Peut-être qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas dit, en fait, c'est que l'être humain est un animal grégaire, comme on dit, hein, c'est-à-dire qu'il a tendance à se rassembler, comme certains animaux se rassemblent. Il y a des animaux qui vivent de façon isolée, mais l'être humain, il se rassemble, parce que finalement, il est assez fragile, tout seul. Et donc, il se rassemble pour être plus fort. C'est quand même, au départ, c'est quand même ça.
Oui, c'est ce qui lui a permis d'avancer, effectivement, oui.
De se défendre.
De faire groupe, de faire société, et puis de compter les uns sur les autres, effectivement.
Oui, oui. Et puis de réfléchir de façon collective à trouver des solutions. Alors, Maroula qui est présente. Maroula, vous voulez... On n'a pas dit qui était autour de la table, parce qu'il y avait donc Philippe qui était toujours là. Et puis, Maroula. Bonjour, Maroula.
Bonjour.
Est-ce que vous voulez vous présenter en deux mots? Vous avez déjà participé plusieurs fois à ces
Tout
émissions.
À fait.
Oui.
Je trouve quand même ce sujet assez intéressant.
Mm-hmm. Et puis il y a aussi Mathis qui est à côté. Bonjour Mathis.
Bonjour.
On se passe les micros, on est beaucoup autour de la table. Alors on est obligé de partager les micros. Et puis il y a aussi Zaya. Bonjour Zaya.
Bonjour Catherine, bonjour tout le monde.
Qui est une fidèle aussi de ces émissions. Et puis il y a aussi Nathalie. Bonjour Nathalie.
Bonjour Catherine.
Voilà, c'est la deuxième petite équipe de cette émission aujourd'hui consacrée au lien social, qui est un peu en rapport avec la semaine d'information de la santé mentale. La semaine d'information, c'est informer, mais aussi discuter, tournicoter autour de certains thèmes, côtoyer, voilà. Et Maroula, il y avait quelque chose que vous aviez envie de nous dire et de nous lire. C'est quoi ?
C'est un extrait de Maurice Zundel, Un autre regard sur l'homme.
Oui, allez-y.
Il s'agit d'être là, d'entourer chacun d'honneur et de créer autour de lui cet espace de lumière et de respect qui lui permettra de découvrir au centre de lui-même cet amour qu'il cherchait vainement au dehors et qui l'attendait au dedans. Point.
Oui. Oui.
Oui. On peut faire un parallèle avec la psychologie.
Oui, oui. Oui, oui. Avec ce qui est... dehors et dedans, et ce qui est du dehors et qu'on met dedans, et qui vient évidemment enrichir. Hein.
C'est
ce qu'on peut dire des liens aussi, hein, d'avoir des liens, c'est pas seulement d'être toujours en lien de façon réelle.
Oui, ça fait avancer le projet.
Oui. Oui, c'est-à-dire que les personnes avec qui on est en lien, on les a aussi dans la tête. Et quand on est seul, oui. On peut aussi penser à elle, et ce qui fait qu'on n'est pas, on n'est pas seul en fait.
Ça fait un soutien virtuel.
Voilà, c'est ça, exactement. Oui, quelqu'un veut dire autre chose sur les liens comme ça, les liens familiaux, le lieu de construction, de départ. Zaya?
C'était quoi la question?
Zaya, je crois qu'elle prépare la prochaine intervention. C'est ça. Et oui, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur les liens familiaux, les liens de départ, de construction?
Moi, le premier lien qu'on peut avoir, c'est le lien avec la mère, puisqu'on sort de elle. Et souvent, je trouve que c'est brutal une naissance. Et c'est le cadre médical pour l'enlever, c'est très très dur. Et pour la maman et pour le bébé, je trouve. Mm-hmm. Parce que c'est des moments très très durs pour l'enfant. Et la maman, elle va recevoir un cadeau. Mais d'ici qu'il est cadeau, elle a quand même beaucoup souffert pendant 9 mois. Et du coup, tous les liens sont. On sera à une place différente, je crois. C'est pas tous la même chose.
Oui.
On peut avoir des liens amicaux avec par des voisins et tout. Et on peut avoir aussi des liens de collègues de travail. Et on peut avoir des amis intimes qui circulent un peu compter, qui sont toujours là pour nous soutenir si on a des soucis.
Oui.
Voilà.
Et quand on a préparé cette émission, donc vous avez souhaité aller interviewer, aller voir des gens qui s'occupent des liens précoces, Vous nous dites qui vous êtes allé voir?
Oui, avec Maroula, on est allé voir Monsieur Zimmermann, Marc, qui est pédopsychiatre. Mm-hmm. Et quand on était là-bas, il y avait sa femme, je ne savais pas qui c'était. Et comme par hasard, elle aussi était pédopsychiatre. Alors, je lui ai demandé de se joindre à nous pour pouvoir discuter des liens mère-enfant. Elle a accepté, c'est très intéressant.
Oui. Eh bien, on écoute Monsieur et Madame Marc et Catherine Zimmermann, qui sont pédopsychiatres et qui parlent des liens primaires.
Comment s'établissent les relations avec la maman et l'enfant?
Alors, dans le développement de l'enfant,
hein, depuis bébé, petit.
Ben, on pourrait même dire avant la naissance.
Oui, dans le ventre
de
la maman.
Parce qu'en fait, dans le ventre de la maman, on sait très bien que à partir du sixième mois et de plus en plus vers la naissance, il y a une sorte de vie intra-utérine qui concerne bien sûr le petit, mais qui concerne aussi la maman. Et il y a des liens entre les deux, à la fois des liens intrinsèques, parce que les hormones de la maman, enfin tout le sang passe en fait du bébé au voilà dans le placenta. Et si vous voulez, ce temps passé comme ça a certainement une importance considérable. Et puis bien sûr, alors, dès la naissance, hein, qui est un moment quand même clé, et tout ce qui va se passer juste après, et dans les premiers moments, d'où l'importance d'ailleurs que ça se passe bien, hein, que la mère puisse aussi... on présente d'ailleurs l'enfant à la mère, il se colle contre elle, enfin on le pose contre elle quand... l'obstétricien. Et puis ensuite, dans les moments qui vont suivre, et les jours, les semaines, enfin, je veux dire, il y a quand même un contact qui est extrêmement important.
C'est un moment très particulier dans la vie d'une femme, d'accoucher, d'avoir un bébé. Et donc, d'abord parce qu'elle est... Et puis, certaines mamans ne sont pas très soutenues par les papas, voire elles sont seules. Donc, c'est très important pour le personnel, dès la maternité, de bien repérer si la maman a besoin de soutien. Et comment réagit le bébé aussi? Parce que tous les bébés ne réagissent pas de la même façon. D'abord parce qu'ils ont une histoire différente. Toutes les mamans ne portent pas leur bébé de la même manière. Et puis, il faut voir comment s'établit le lien entre la maman et son bébé. Et alors là, ce sont les sages-femmes, les infirmières de puéricultrice qui travaillent avec la maman. Et si vraiment elles sont un petit peu inquiètes, et si elles pensent qu'il faut aider cette maman et ce bébé, alors elles font appel à une équipe de pédopsychiatrie. Et c'est soit une infirmière... qui travaille dans l'équipe, soit la psychologue, soit le pédopsychiatre qui peut faire une consultation et qui voit avec la maman comment on peut bien aider la maman et son bébé. C'est toujours, on dit la dyade, parce que c'est toujours les deux. Voilà, on ne peut pas aider le bébé si on ne travaille pas avec la maman, si la maman n'est pas là. Et je dis la maman, mais bon, parce que dans la réalité, souvent ce sont les mamans qui sont dans les... Voilà, mais le papa, le lien avec le papa est très important. Et là, s'établit un protocole avec la maman pour voir de quoi elle a besoin, comment elle veut que ça se passe. Est-ce qu'elle veut que, quand elle va rentrer à la maison, une infirmière de l'équipe continue à venir? Si l'équipe pense avec la sage-femme, avec... que c'est bon, le petit moment un peu difficile est passé, c'est bon, la maman, voilà. Mais la maman, elle sait toujours qu'avec son bébé, elle peut revenir.
Et c'est tout le travail des équipes de périnatalité, des équipes parents-bébé, d'aider la maman, d'aider les parents à ce que le lien ne se rompe pas. Et j'ai envie de dire, même si on a l'impression que le lien a pu être rompu, rien n'est définitif. Tout peut se reconstruire. Le lien, c'est quelque chose de fort et ça se... Même s'il reste une cicatrice, parce qu'on a été un bébé qui a été séparé, parce que la maman ne pouvait pas, ne savait pas, etc. Et qu'après, on retrouve sa mère. Et même s'il y a des cicatrices, les cicatrices, elles peuvent se soigner, se réparer. Quand on est plus vieux, quand on est adulte, avec le travail psychologique.
D'accord.
Mais je veux dire qu'avec l'aide dont parle Cathy, qui peut s'instaurer autour du tout petit et de la mère, comme ça, dans les premiers moments, grâce à cela, je veux dire que ces difficultés de la mère, ces petits doutes, ces petites choses qui pourraient laisser des traces, ou en tout cas dont on craint que ça ne laisse des cicatrices, en fait, non. Ça, je veux dire, la nature est quand même assez bien faite.
Oui.
Et. C'est pas systématique, mais je veux dire, globalement, quand c'est accompagné, ça se passe bien.
Puis il y a toutes les personnes de substitution. Mmh. Il y a les grands-mères,
les tatas,
les tatas, mmh, le cercle élargi de la famille,
l'école,
enfin bon, voilà, c'est qui sont là pour soutenir s'il y a une défaillance, voilà. Et un bébé peut
prêter être main forte.
Voilà, exactement, voilà.
Et rassurer.
Et rassurer, et puis bien faire le job, j'ai envie de dire, hein, si la maman est un peu en difficulté.
Comment le lien mère-enfant se crée?
Alors, comment ça se crée? Alors, ça se crée au moment, dans le ventre de la mère, déjà. Hein, les mamans parlent à leur enfant, déjà. Elle joue déjà un peu avec aussi, vous savez, il y a les fameux coups de pied, alors des fois c'est pas agréable, mais enfin il y a aussi des mouvements, enfin il y a tout un contact malgré tout qui se crée comme ça, et puis les mamans parlent aussi à leur enfant avant même que lui-même ne parle, hein. Il faut attendre quasiment une année, hein, enfin une bonne année pour que l'enfant parle, mais ça c'est comme ça que dans cette espèce de petits murmures de contact, hein, physique aussi et de contact aussi avec la voix, hein, que se passe plein d'échanges entre la mère et l'enfant, surtout sur le plan sensoriel en fait. Oui, je pense que la façon de parler, quel que soit l'âge finalement, entre une mère et son fils ou sa fille, il y a quand même quelque chose qui, je dirais, qui est valable toute la vie. Ça. Alors évidemment, ça évolue, heureusement d'ailleurs, mais si vous voulez, ça s'enrichit en fait. Hein, ça.
Alors on va remercier le docteur Zimmermann, Marc, qui est pédopsychiatre, et madame, docteur Zimmermann, Catherine, qui est également pédopsychiatre, qui nous ont bien reçus chez eux avec un bon thé.
Merci de nous avoir donné plus de détails en espérant que le monde continue de tourner.
De chacun à tous, de tous à chacun, avec Pluriel, tout plein de petits liens.
Voilà, merci Zaya et Maroula d'être allés voir monsieur et madame Zimmermann autour des liens primaires, des liens précoces, puisque aujourd'hui on parle du lien social, donc on s'est intéressé au premier lien, au pluriel, hein, parce que ils parlent tous les deux, ils parlent de la mère, mais ils parlent aussi des autres liens. Zaya, vous voulez rajouter quelque chose?
J'aimerais vous raconter comment s'est passée la séance, en fait.
Oui.
C'est monsieur Zimmermann. En fait, nous, on ne savait pas que sa femme était pédopsychiatre, du tout. Et après, je lui ai demandé, je sais pas, ça ne la dérangeait pas de me dire quelle profession elle faisait. Elle m'a dit, je suis pédopsychiatre. Et ben, j'ai dit, je venais vous voir nous. Alors, du coup, elle est restée avec nous, elle parle beaucoup. elle a vraiment pris une place, elle nous a bien expliqué les choses, et ça fait plaisir. Voilà.
Alors voilà, ça a fait un lien en plus, en fait.
Tout à fait. Hein? On a fait du lien tout de suite. On est arrivé chez eux, on a fait un lien de plus. On était trois, on est devenus quatre.
Oui. Est-ce que. Oui, Maroula.
Il a été mentionné que l'enfant jusqu'à 3 ans peut être une éponge.
Une éponge, oui. Donc, et ça vous a parlé?
On me l'a dit, déjà.
Oui.
Ouais, donc,
ouais.
Et
oui, parce qu'il peut ressentir les choses.
Son seul contact, c'est sa maman, éventuellement.
Oui, oui, oui.
Et il prend d'elle les habitudes ou autres.
Oui. Oui, oui, oui. Et oui, c'est pour ça que dans le ventre de la mère, il y a des choses aussi qui sont déjà ressenties. Hein,
bien sûr. Bon, on ne savait pas ça, bon.
Non, on ne savait pas. Oui, et maintenant, vrai. On le sait bien, puisqu'il y a tous les neuromédiateurs. Donc, on peut imaginer que quand ça passe dans le sang, ça passe directement dans le sang du bébé. Hein. Oui. Mm-hmm. Et je trouve intéressant, évidemment, qu'ils disent que voilà, il y a tous les autres liens aussi à côté. Hein. Les oncles, les tantes, les frères, les sœurs, l'école.
Hein,
Zaya, vous avez rajouté l'école, bien sûr.
Non, l'école, c'est un lieu primordial pour l'enfant. Il faut qu'il grandisse et devienne un adulte responsable.
Oui.
Parce que l'école donne des outils, elle donne tout. Et il faut qu'on puisse en profiter au maximum.
Oui.
Pour avoir des grandes études, tout ça par la suite. Être un citoyen bien dans sa tête.
Oui. Et puis, bon, on est aussi bien placés là, tous autour de la table aujourd'hui, pour savoir que les liens, y compris les liens précoces, les liens familiaux, ne sont pas toujours simples. Il n'y a pas à en faire un paradis. Enfin, on sait aussi que ça peut des fois mal se passer. Et justement, autour de la table, on est bien là. Vous témoignez de la réparation qui peut en être faite plus tard. Hein,
mais des fois, ça peut être la mère ou le père qui maltraite un petit peu leurs enfants. Et des fois, ça peut être dans un autre lieu. Hein. À l'école aussi, ça se passe mal des fois.
Aussi, oui. Oui, Monsieur Colera, oui.
Oui, je voulais dire, j'aimais bien dans le témoignage des Zimmermann le fait qu'il n'y avait pas de fatalité. C'est-à-dire ce que vous venez de dire, il y a de multiples situations où le lien a été abîmé, a été distendu, parfois rompu. Et en même temps, on peut trouver des lieux. Et je fais un parallèle aussi avec la santé mentale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la santé mentale peut avoir ce côté qui coupe la relation, qui fait peur. Quand je dis que je souffre de bipolarité, de schizophrénie, je n'attire pas la même empathie que quand je dis que je souffre d'un cancer. C'est sûr. Il y a quelque chose qui, dans la maladie mentale, va stigmatiser et va mettre à distance ce lien social et la relation. Et du coup, c'est là-dessus qu'il faut arriver à mettre des mots, je trouve, ce que nous faisons ce matin, de ne pas stigmatiser telle pathologie, telle maladie, et au contraire de se dire, bah, dans ce moment-là, comment je peux me faire encore plus proche, comment je peux prendre davantage soin de la relation. Moi, je suis assez attaché à la notion de fraternité, qui est peut-être un peu galvaudée, mais qui reste quand même sur notre devise républicaine. Et il y a dans la fraternité quelque chose où on n'est pas dans une relation descendante avec l'autre, où je suis simplement dans la relation à l'autre pour ce qu'il a à m'apporter avant d'avoir à lui apporter quoi que ce soit. Et je trouve que cette notion de fraternité, je la connecte vraiment à celle du lien social, de se redire qu'on a besoin de l'autre pour ce qu'il est, et à travers cette relation, peut-être de l'aider à être davantage lui-même.
Merci. Et alors, parmi nous, nous avons notre historien de service, c'est Mathis, qui nous accompagne dans nos émissions avec Saint-Jean-de-Dieu, avec Radio Passage depuis 2 ans, je crois.
Hein, oui, à peu près.
Et Mathis, vous voulez nous dire quelles questions vous êtes posées et comment vous êtes allé y répondre ?
Eh bien, la question du lien social, de son entretien et de sa réparation ne date évidemment pas d'hier. Elle occupe notamment les esprits des personnes hospitalisées à l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu de Lyon, sur lequel portent donc mes recherches de thèse, dès la deuxième moitié du XXe siècle. Et donc je vous propose un petit peu de plonger dans les archives de cet hôpital psychiatrique créé au XIXe siècle. C'est notamment cette question, ce qu'on peut observer à travers les numéros du journal L'Espoir, qui est réalisé de manière artisanale par les patients de l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu, donc à Lyon, entre 1957 et 1981. Il s'agit, alors pour le décrire, d'un document qui fait en moyenne 30 à 40 pages, dans lequel on retrouve des dessins, des poèmes, des articles ou autres rubriques qui viennent raconter le quotidien de l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu, les nouvelles des services, tout en faisant part évidemment de l'actualité à la fois lyonnaise mais aussi mondiale. Alors, ce journal, ce que je trouve intéressant dedans, c'est qu'il met en relief le fait que l'hospitalisation, c'est en partie une expérience de la mise à distance physique et affective des patients avec leur entourage. L'éditorial du numéro de l'été 1969 décrit notamment, je cite, ces maris, ces pères de famille, dont on s'est un peu écarté depuis qu'ils sont à l'hôpital, les lettres sont rares, les visites encore davantage. Mais évidemment, loin d'apporter une vision qui est plutôt misérabiliste, on dirait, de l'hospitalisation, L'Espoir souligne aussi l'importance du soutien de ses proches, plus ou moins éloignés. Monsieur E évoque notamment dans un numéro de 1965 l'affection d'une nombreuse famille. Il cite, comme on le disait tout à l'heure, femmes, filles, frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces. Et donc, en plus d'illustrer ici l'étendue de la parenté qui peut se mobiliser durant l'hospitalisation, l'entourage des malades ne se limitant évidemment pas ni aux conjoints et conjointes, ni aux parents et aux enfants.
L'espoir indique également l'importance des lettres et des visites que certains hospitalisés peuvent recevoir. Il y a une époque donc, où l'hospitalisation, la durée d'hospitalisation est largement supérieure à celle d'aujourd'hui. Les hospitalisés n'hésitent d'ailleurs pas à prendre la plume dans l'espoir pour déconstruire justement un ensemble de stéréotypes autour de la psychiatrie et notamment enjoindre leur entourage à ne pas se détourner d'eux. Je voudrais citer là un passage que je trouve assez beau, c'est celui de l'éditorial d'avril 1970, dans lequel on peut lire, je cite, « Parents et amis qui nous lisaient, écrivez souvent aux malades, ne serait-ce qu'une simple carte, ils se sentiront aimés et moins seuls, qu'ils nous pardonnent à tous, soit que nos lettres n'aient ni queue ni tête, soit qu'elles expriment des sentiments trop accusés d'agressivité ou d'anxiété. Ce n'est pas de notre faute si nous sommes comme nous sommes, qu'ils nous pardonnent enfin notre silence. On aime bien recevoir des lettres, mais on n'aime pas en écrire. » Donc l'espoir se veut ainsi être un outil, un guide en quelque sorte pour raccourcir son parcours institutionnel et essayer de conserver des liens avec son entourage. Et ce journal des hospitalisés permet ainsi, et c'est ce que je trouve particulièrement intéressant, de faire dialoguer l'histoire des liens familiaux avec celle de la psychiatrie, à partir en particulier du point de vue des patients eux-mêmes, qui est une démarche d'ailleurs préconisée aujourd'hui par les historiens et les historiennes. Alors il fait évidemment rappeler en tant qu'historien que, comme de nombreuses sources, l'espoir comporte des biais et doit ainsi être confronté à d'autres types d'archives. Mais les questions qu'il soulève, en particulier autour des liens sociaux des patients, restent néanmoins intemporelles. Les enjeux autour du lien social, de la manière de l'entretenir, de ne pas le laisser s'effriter, de savoir conserver la bonne distance avec ses proches, ça pose des questions évidemment autant à l'hospitalisé d'hier qu'aux personnes concernées et à leurs proches. Proche d'aujourd'hui, la question de garder, maintenir, réparer le lien social, que ce soit par l'échange, la parole ou même par l'écrit. Sur ce point, l'éditorial de février 1976 de l'Espoir a tranché avec la recommandation suivante : prenez maintenant la plume et composez de belles lettres.
Merci Mathis, merci beaucoup. Alors personnellement, moi je trouvais très intéressant, ça m'a fait penser à un certain nombre de choses, finalement la reconnaissance de l'importance des liens. Hein. Parce que je me disais que c'est quand même un mouvement un peu global. Je me disais que souvent on a mis les familles à l'écart quand les enfants étaient hospitalisés, par exemple. On disait aux parents de ne pas venir. Maintenant, on est très content qu'ils soient là. On leur met même un lit à disposition dans la chambre de l'enfant. On a fait pareil avec les pères pendant l'accouchement, de les mettre dehors. Et maintenant, on est très content qu'ils soient dedans. Et on a fait ça avec un certain nombre de maladies psychiatriques, hein, de mettre les familles dehors. J'ai dit dehors, c'était vraiment dehors. Enfin, elles n'avaient même pas le droit de rentrer. Et je trouve intéressant qu'au fur et à mesure, l'importance des liens a été reconnue, hein, que l'être humain ne peut pas se soigner tout seul. Mais...
Ça, c'est intéressant parce que c'est un phénomène qu'on peut situer historiquement. C'est-à-dire que pendant la Seconde Guerre mondiale, on a ce que l'historienne Isabelle von Bünzensloven a appelé l'hécatombe des fous. C'est-à-dire qu'on a 45 000 malades qui sont morts de faim dans les hôpitaux psychiatriques français. Et l'une des raisons expliquées par l'historienne de cette famine, de cette hécatombe, c'est justement la rupture du lien social qu'ont connu un certain nombre d'hospitalisés à cette période. Et donc la période d'après-guerre, c'est une période marquée notamment par de nouvelles stratégies thérapeutiques qui mettent en avant la cohésion de groupe, l'importance du lien social pour justement se réinsérer, c'est les termes de l'époque, plus facilement dans la communauté. Et ça me faisait penser à autre chose. Donc Catherine, tu parlais des familles qui sont présentes à l'hôpital. On a organisé avec Cécilia l'an dernier un colloque sur le thème de famille et psychiatrie. Et on a fait intervenir deux professionnels du soin de l'hôpital de Bobo Dialosso, donc au Burkina Faso, avec lequel l'hôpital Saint-Jean-Dieu a un partenariat. Et ils nous expliquaient justement le fait que les familles sont très présentes au quotidien dans ce type d'hôpital, dans les hôpitaux au Burkina Faso. Et notamment le fait que des hospitalisations se font régulièrement avec la présence d'un tiers, c'est-à-dire qu'un tiers, membre de la famille, proche, se fait hospitaliser avec une personne pour l'accompagner dans ce parcours de soins. Ça me faisait penser à ça.
Merci. Et dans l'importance des liens, il y a aussi les liens amicaux. Et Nathalie avait proposé de lire un texte de Montaigne sur son amitié avec la Boétie.
Montaigne et la Boétie se sont rencontrés au Parlement de Bordeaux. Et du coup, dans ses essais, dans le livre 1, chapitre 28, Montaigne dit les choses suivantes, toujours en pensant à la Boétie. Au demeurant, ce que nous appelons ordinairement amis et amitié, ce ne sont qu'acquaintances et familiarités nouées par quelque occasion ou commodité, par le moyen de laquelle nos âmes s'entretiennent. En l'amitié de quoi je parle, elles se mêlent et confondent l'une en l'autre, d'un mélange si universel qu'elles effacent et ne retrouvent plus la couture qui les a jointes. Si on me presse de dire pourquoi je l'aimais, je sens que cela ne se peut exprimer qu'en répondant « parce que c'était lui », parce que c'était moi. Il y a au-delà de tout mon discours, et de ce que j'en puis dire, particulièrement, ne sait quelle force inexplicable et fatale médiatrice de cette union. Nous nous cherchions avant que de nous être vus, et par des rapports que nous aurions l'un de l'autre, qui faisaient à notre affection plus d'efforts que ne porte la raison des rapports, je crois par quelque ordonnance du ciel, nous nous embrassions par nos noms. Et à notre première rencontre, qui fut par hasard, en une grande fête et compagnie de ville, nous nous trouvâmes si pris, si connus, si obligés entre nous, que rien dès lors ne nous fut plus si proche que l'un à l'autre.
Merci Nathalie. On peut rajouter évidemment que la Boétie est mort très jeune, hein, que, évidemment il a manqué beaucoup à Montaigne. Alors on arrive à la fin de cette deuxième partie, sur les liens familiaux, amicaux. On va faire une pause musicale et puis on va accueillir de nouveaux intervenants bientôt autour de la table. Et on va écouter les Beatles. C'est « With a little help of my friend », l'aide de mon ami. Merci François.
And I'll try not to sing.